pas une limite. En tout cas, ce que je sais, c'est que la capacité de la Terre à nourrir les individus, elle est bien plus que ce qu'on nous dit, parce qu'il y a une égalité totale des répartitions des richesses et des capacités sur Terre. Mais ceci étant, ce n'est pas non plus une capacité infinie. Mais ceci étant, ce que je voulais dire, c'est que ça nous interpelle sur le fait que, pour moi, l'Anthropocène est l'horizon durable. Et que dans cet Anthropocène aujourd'hui, on est dans un capitalocène mortifère, mais qui suppose le passage d'un autre Anthropocène, d'un Anthropocène vertueux, qui serait ce que certains appellent une symbiocène, ou ce que dit Pierre, c'est-à-dire nous réconcilier avec la nature, nous réconcilier avec la Terre, etc. Mais que l'Anthropocène, d'une certaine façon, est notre horizon durable. À quelques milliards d'individus, que ce soit 8, 10, etc., sur Terre, je ne vois pas comment les êtres humains peuvent continuer de vivre sans laisser d'impact. Mais lesquels? Ça, c'est une autre interrogation. Ça, c'est une autre interrogation. Je passe aussi très vite sur les tendances qui ne sont pas, à mon avis, anecdotiques. À la fois les tendances autoritaires, qui existent y compris chez certains camarades écologistes, qui est la tendance de dire, qui rejoint la question de la démocratie pour dire finalement, pas seulement qui est en capacité d'analyser, mais qui est en capacité d'écrire le récit de façon de vivre vertueux. Alors, par exemple, tous les gens autour de Cochet, Institut Momentum, etc., sont des gens qui pensent pour d'autres et qui écrivent des jolis récits pour d'autres. Voilà. Mais il y a aussi la tentation de penser que la démocratie est soit une perte de temps, soit trop de dissensus dont on ne sait pas quoi faire. Et donc, finalement, devant les urgences qui vont s'imposer de plus en plus, indépendamment de la géo-ingénierie et des solutions du capitalisme, même les solutions écologiques et éventuellement de bonnes solutions écologiques seraient à s'imposer de façon autoritaire, parce que sinon on s'en sortira pas. Ça me semble là être des dangers extrêmement importants, qui néanmoins doit nous interroger, parce que c'est pas le seul domaine dans lequel il y a eu dans l'histoire récente et peut-être encore aujourd'hui. Il y a eu et il pourrait y avoir un reproche à faire à une certaine démocratie qui fait débattre sans avoir d'effet. Et savoir pourquoi est-ce que quand on débat, on a quelquefois peu d'effet. Donc peu de capacité d'agir, peu de capacité de transformer les choses. Ce qui serait mortifère pour la démocratie elle-même. Je rejoins parfaitement ce qu'a dit Pierre sur le fait que, et ça fait longtemps que je le pense, que le local n'est pas un enfermement dans le bocal, mais le lieu à partir duquel on déploie la démocratie à toutes les autres échelles. Ceci étant, il ne me semble pas qu'en l'état actuel des choses, en l'état des institutions internationales telles qu'elles existent, ou des COP ou de tout ce qu'on veut, on soit en capacité de réguler les choses à l'échelle planétaire pour des contradictions profondes, sans parler de la Chine et ce que fait la Chine, et de l'ambiguïté du pouvoir chinois. Il y a aussi le fait, et on le sait, que considérer les forêts équatoriales comme le poumon du monde, c'est une question essentielle, mais indépendamment de combattre ce que le capitalisme fait aux forêts du monde, dire de loin aux peuples autochtones ce qu'ils devraient faire de leurs forêts parce que ça constitue notre poumon à nous, ça suppose des réciprocités qu'on ne sont pas pour l'instant prêts à admettre. C'est-à-dire il y a une question de souveraineté. Question de souveraineté, d'autant que, en exagérant le trait, en allant caricature, c'est que les humains ont choisi, à travers l'histoire, de vivre dans des endroits les plus invraisemblables, que ce soit sur la glace au pôle Nord, que ce soit dans le désert, que ce soit dans les marécages, et que des nations se sont constituées avec des capacités d'autosuffisance extrêmement variables dans la ceinture aride du monde. Il n'y a aucun pays qui est en capacité d'être autosuffisant au point de vue alimentaire. Donc, cette question d'interdépendance internationale qui interagit avec la question des souverainetés et avec la question de la marchandise, de la marchande, de qu'est-ce qu'on échange, comment on échange, qu'est-ce qu'on a en contrepartie, me semble être un élément aussi extrêmement fort. Sur la question de l'effondrement, qui fait aussi énormément de débats, hein, y compris chez les écologistes, moi j'ai deux bouquins qui font un peu le tour de la question, n'épuise pas, mais font la tour de question et sont très intéressants. Un, c'est lui de Citon et Rasmi sur les générations collapsologues, qui a une approche très méthodologique un peu bienveillant, mais pas que, très critique aussi sur la façon de collapsologie peut contrarier d'une certaine façon le combat écologique, et celui de Renaud Garcia sur la collapsologie, etc. Mais ce qui me semble, c'est que moi, je vois peu, en tout cas peu de gens qui explicitement appellent au nom de l'effondrement à l'inactivité, ou l'inactivisme, ou au fait de dire il n'y a rien à faire. Quelquefois, c'est dans les discours plus ou moins cachés. Vassallo, Patrick l'a dit sur la question de Janukovici, etc. Il y en a d'autres. Mais personne ne dit, comme ça va s'effondrer, bon, il y en a une partie, hein, c'est les survivalistes, etc. Mais dans l'ensemble, cette angoisse sourde, parce que quelquefois, on n'ose pas se mobiliser, on n'ose pas les combats. Et je pense que de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait une question générationnelle dans les mobilisations écologistes, c'est pas pour rien. C'est-à-dire, d'une certaine façon, la jeunesse, en tout cas une partie de la jeunesse, sans qu'elle, tout simplement, elle n'en a pas le choix. Voilà. Par essence, c'est lui qui va vivre l'avenir, et l'avenir est bien noir, donc il se le coltine. Est-ce qu'il se le coltine de bonne façon, mauvaise façon? Autre débat, sujet autrement intéressant. Mais moi, il me semble qu'on a intérêt peut-être à choisir un ou deux angles d'attaque maximum dans déjà le numéro qu'on veut faire pour le mois de mars, tout en disant bien que les angles, peut-être même en les citant, que les angles d'attaque, de débat, de discussion, de mobilisation sont extrêmement importantes et que on continuera de les aborder, parce que sinon on va mettre en réduisant le champ d'attaque, on va toujours mécontenter des gens en disant mais ça vous en avez parlé, de ça vous en avez parlé, etc. Juste pour finir, dans le cadre, j'en avais parlé une fois avec Olivier, dans le cadre des débats que ça nous impose, il y a aussi au-delà de débats philosophiques un débat extrêmement profond et inquiétant sur le rapport à la science. Il y a un antiscientisme dans une certaine écologie qui à la fois attire notre attention sur peut-être notre scientisme un peu béat, mais voilà. Mais il y a ça et il y a vraiment la volonté de la volonté aussi, je disais, c'est pas anecdotique, d'un certain capitalisme, de trouver un lieu d'échange. Hein. Moi, je ne prends absolument pas à la légère les sommes astronomiques qui sont dépensées aujourd'hui dans la recherche des exoplanètes, dans la possibilité de vols spatiaux et dans le fait que peut-être on ne sauvera pas la planète, mais une poignée de gens pourront se sauver avec toutes les incertitudes que ça suppose. Mais en tout cas, c'est pas rien, c'est-à-dire que ça c'est un élément qui pour moi est quand même indicatif, d'autant plus que, dernière remarque et je me tais, je suis très très long, que on ne se focalise pas assez sur le fait qu'un certain discours, y compris chez les écolos, y compris dans une partie importante de la gauche, parle en ce qui concerne notre économie de changement de modèle, mais pas de changement de système. Voilà, et je pense que dans le débat qu'on a sur le capitalisme, il faut vraiment taper sur cette idée que on peut pas changer de modèle capitalistique, il faut changer de système capitaliste, voilà.
Donc du coup, Olivier ?
Oui, ben je vais repartir de pas de la conclusion, mais des derniers propos de Macron. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une fraction de la population, enfin, qu'il y a des dirigeants ou des imagine effectivement un monde, alors peut-être sur des exoplanètes ou même un monde complètement, j'allais dire, restructuré autour de leur vie possible avec le reste. Enfin, je vous renvoie pas vers les films ou les ouvrages de Philippe K. Dick d'ailleurs, mais je trouve qu'il avait une certaine prémonition quand il décrivait l'avenir et notamment une partie de la population mondiale enfermée, pour que quelques-uns puissent continuer à vivre, soit dans des satellites, soit dans des espaces protégés. Parce que je pense qu'il y a derrière ça quand même des gens qui, en tout cas qui pensent, s'ils ne le pensent pas, conduisent à ça. Mais bon, c'est une remarque, mais je pense que, et ça vient, je pense aussi sur, même si je partage pas complètement le point de vue de Patrick sur Jean Covici et le fait qu'il voit une société autoritaire, Mais je pense qu'effectivement, il y a des gens qui pensent qu'on ira vers la crise et la solution sur la crise, c'est l'autoritarisme. Une société complètement policière, voire enfin, ou dictatoriale, pour justement pouvoir gérer la crise et ses impacts. Maintenant, une fois ça dit, je voudrais revenir, moi, à enfin, quelque chose de plus pratique, enfin, plus concret, enfin, plus concret. Je partage comme vous le fait que le capitalisme est antinomique à une transition civilisationnelle qui puisse faire, ne serait-ce que protéger les siècles qui viennent. Et alors, je l'ai pas bien écouté, mais j'ai cherché, j'ai pas plus que son bouquin est en rupture, mais j'entendais l'autre jour Jean-Baptiste Frézouze, je crois, c'était sur France Inter, qui disait qu'il serait plus difficile d'organiser la transition que de se débarrasser du capitalisme.
Plus
Je sais pas.
difficile
De réaliser la transition civilisationnelle auquel nous sommes confrontés que de se débarrasser du capitalisme. J'ai pas lu son bouquin, il est en rupture de stock, donc en dire plus, mais je peux prendre qu'un seul exemple parce que pour reprendre les choses de manière pragmatique, faire face et donc organiser la transition, y compris dans un cadre non capitaliste ou anticapitaliste, c'est en fait un objectif qui est aujourd'hui affiché partout. Décarboner nos économies en 2050. Bon, bah, décarboner l'économie en 2050, ça peut réinterroger déjà pourquoi on continue à investir et à filer du fric aux groupes, et notamment français, qui investissent dans la recherche de pétrole, de gaz et de carbone. Ben, ça, c'est une première. Je veux dire, 2050, c'est dans moins de 30 ans. On n'a pas besoin d'aller rechercher du pétrole. Mais la deuxième chose, y compris si on décarbone, enfin, donc décarboner en 2050, je vous renvoie, faites les calculs en matière d'énergie, ça veut dire qu'il va falloir se priver de toute une partie de l'énergie dont on dispose aujourd'hui. Donc ça va avoir un impact sur nos modes de vie considérables. Et ça, je veux dire, sans traiter de la question, enfin, déjà des inégalités, qui sont de toute manière un élément incontournable, mais même quand on regarde la consommation de carbone qui est rapportée à la population mondiale, même les plus défavorisés de chez nous consomment plus que ce qui serait nécessaire en termes de carbone d'avoir en moyenne. Donc, ce qui veut dire que, et c'est là que la question effectivement du mode de vie, de comment on veut vivre, est incontournable et qui nous renvoie aussi aux imaginaires que le capitalisme génère. Moi, je ne sais pas si vous voyez, moi, je vois ma petite fille qui a 13 ans. Je veux dire qu'on a des discussions un peu régulières sur ce qu'elle a envie de faire et tout. Je veux dire, son grand rêve, après avoir été en Thaïlande, après avoir été, c'est d'aller au Vietnam, etc. Et pour elle, il est inconcevable de ne pas parcourir le monde en avion. Moi, je lui rapporte, écoute, Kimia, c'est 4 voyages par vie pour chaque être humain sur la Terre. Donc, je veux dire, ça veut dire que tous mes copains retraités, bah, qu'est-ce qu'ils passent? Ils passent toute une partie de leur temps en voyage. Donc, ça veut dire qu'y compris les imaginaires, ils sont aussi à reformuler. Je vous, bah, je, vous voyez, tout ce qu'on voit sur la, bah, je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter, mais tout ce qu'on raconte sur la bagnole électrique, pour moi, c'est de la daube. C'est une magnifique daube, mais sauf que ça a deux intérêts. Ça fait croire qu'on va décarboner sans changer les modes de vie. Et ça permet y compris de maintenir le capitalisme autour, qui était quand même le cœur du capitalisme au départ, autour de l'industrie automobile. Donc je veux dire, mais vivre sans bagnole, c'est quand même autre chose. Enfin, réfléchissons à ce que ça impacte et comment les gens peuvent réagir par rapport à ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que décarboner en 2050, c'est déjà forcément changer nos niveaux de vie. Comment on le dit, ça, si on veut pas d'une société autoritaire, comment on le fait et comment on le met en débat et comment on le conscientise pour que ça soit effectivement un projet partagé, parce que ça va demander de l'énergie. Ça va demander une énergie collective et pas forcée, et donc forcément qu'on fasse quelque chose de manière volontaire et pas subie. Enfin, je suis trop long là-dessus, mais l'autre point. Bien sûr que cette crise, oui, elle réinterroge y compris nos propres valeurs. Enfin, je suis ingénieur de formation, j'ai été élevé dans l'idée que la science répondrait à tout. Alors, je partage comme Macron le fait qu'il faut de la science et on en a encore besoin. Et je reviendrai aussi tout à l'heure parce que je pense qu'il faut aussi de l'industrie, on en a encore besoin. Mais je pense qu'il faut effectivement sortir de ce que j'allais dire, de ce monde de productivisme, de l'idée que la science allait répondre à tout et que le progrès, et alors peut-être c'est parce que je suis devenu vieux, mais moi finalement, il y a des projets sur lesquels des progrès, pardon, sur lesquels je m'interroge, quoi. Est-ce que ce c'est réellement des progrès, quoi? Donc voilà, mais en même temps, bah, oui, pour décarboner, il faudra aussi quand même qu'on utilise de la science, y compris de l'industrie. Et j'ai aussi parfois le sentiment qu'on sous-évalue les enjeux que ça implique, y compris pour la maîtrise industrielle. Ce qui renvoie ça, moi, à la question de la bataille contre le capitalisme, ben c'est que je ne pense pas que le marché puisse être l'outil, et je pense qu'il faut retrouver une planification. Mais est-ce que cette planification, à quelles conditions on peut en avoir les moyens? Et cette planification, comment elle peut être démocratique quand on sait ou qu'on connaît qu'ont été les planifications, quand, notamment dans les pays socialistes? Donc, je veux dire, donc ça, c'est effectivement, et ça renvoie à des questions de démocratie qui demeurent, j'allais dire, permanentes, enfin, je veux dire, parce que pas forcément toujours résolues, avec des conflits qui existent. Qui sont à gérer et dont on a aussi nécessité de réfléchir sur comment on les gère, quoi. Voilà, je trouve qu'il y a à la fois des questions d'urgence, et je vais en finir là-dessus, je parle, bon, c'est le domaine que je connais le mieux, mais sur les questions énergétiques, je trouve affolant, hein, je veux dire, le modèle européen qui se construit, notamment autour de l'Allemagne, c'est un modèle néocolonial. Hein, je veux dire, ils imaginent couvrir le sud de l'Afrique de panneaux solaires pour produire l'hydrogène qu'ils vont consommer chez eux. Et dans le même temps, si on parle décarbonation dans les années 50, en même temps, qu'est-ce qu'on fait, y compris, on raisonne et on agit effectivement à la maille qui est la nôtre, qui est la maille d'un pays, de l'Europe, etc. Mais comment on pense aussi le développement humain sur l'ensemble de la planète? Enfin, et ces questions-là, alors moi, je n'ai pas de réponse et j'entends que chacun d'entre vous les a posées à sa façon. J'ai pas de réponse. J'ai fini. Pardon.
Vas-y, Pierre.
Oui, moi je voulais revenir sur deux, trois questions qui ont surgi dans la discussion, dans l'échange. D'abord, c'est la question de la domination. Parce que je la trouve fondamentale, Olivier, sans utiliser le mot, vient d'en faire une certaine démonstration. C'est-à-dire, qui définit ce que nous avons en tête, nos concepts, notre manière d'approcher. Je suis en train de chercher depuis 10 minutes le nom de l'Américain qui a été un industriel et qui était faut que les ouvriers consomment. Comment? J'entends pas, mais bon, enfin,
Ford.
faut.
Tu parles de
Comment?
Ford, Henry
C'est pas
Ford.
Ford.
Oui,
Voilà,
Ford.
voilà. Il a pondu un texte au début du siècle dernier, après la Première Guerre mondiale, qui est très intéressant, sur le développement de l'automobile. Et il explique que la production de pétrole est moins faite pour répondre au développement de l'automobile que le développement de l'automobile est fait pour répondre à l'utilisation du pétrole. C'est-à-dire, vous voyez, il y a une sacrée question sur qui définit les besoins. Qui définit les besoins? Qui définit la notion de richesse? Qu'est-ce que c'est que la richesse? Pour l'instant, tout ce qui est culturel, santé et comment je pourrais dire, et social, échappe complètement à la définition de la richesse. Donc la question de la domination est vraiment très fortement. Et alors, je pense à ce qui vient d'être dit sur les sciences. Moi, je suis frappé d'une philosophie qui s'est dégagée avec la révolution industrielle au 19e siècle. C'est la confusion entre développement scientifique et positivisme, et qui a conduit à des déboires politiques fondamentaux, y compris d'abord en Union soviétique, mais pas seulement. Voilà. Et donc, je crois qu'on devrait être capable aujourd'hui de s'attaquer à certaines notions qui ont l'air d'aller de soi. Quelqu'un a évoqué les agriculteurs avec ce que ça a d'ambivalent ou d'ambigu, je ne sais pas comment il faut le dire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mise en cause du libre-échange. Il y a un texte de la Confédération paysanne qui est excellent. Excellent. Donc je crois que on est en situation d'aborder les questions sans avoir les mains trop liées ou sans être trop embarrassé. Et alors, je voudrais terminer sur quelque chose qui a été évoqué mais effleuré, c'est la notion du local au global. Or, c'est une notion qui est, comment je pourrais dire ça, qui est plus ancienne qu'on ne pense. Moi, je me souviens d'un voyage que j'ai fait quand j'étais secrétaire de l'AJC, non pas pendant la guerre au Vietnam, parce que j'en ai fait trois voyages, mais en 82. Et l'opinion des dirigeants vietnamiens, c'est qu'ils avaient gagné la guerre dans tous les pays, dans tous les pays. Eux, bien sûr, mais pas seulement, y compris avec ce qui s'est passé aux États-Unis et tout. Et je crois que aujourd'hui, il y a une manière d'aborder les questions internationales ou comme l'écologie, qui vise à essayer d'enfoncer les gens dans la déprime et dans l'impuissance. Et je crois très, très important, moi, de réagir à ça. Très, très important. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait le sentiment que non, on est capable d'avoir une vision et donc d'intervenir sur des éléments qui, d'ailleurs, qu'est-ce que font les gens qui ont manifesté leur soutien aux Palestiniens? Pour eux, ça allait de soi, quoi. Mais on est toujours un peu dans le sentiment que c'est second, ou que ça fait juste la pointe avec ce que font les grands de ce monde, alors que c'est le contraire. Moi, je suis frappé, on en avait parlé à Cerise, je suis frappé par une évolution du discours, qui n'est pas réglé, mais du discours du gouvernement français. 2 jours après le coup du Hamas, la ministre des Affaires étrangères fait une déclaration tonitruante en disant il appartient aux Israéliens de répondre à la hauteur de ce qu'ils ont subi même vous voyez, faut aller en guerre, quoi. Voilà, j'ai oublié les mots exacts. 3 jours après, Macron et d'abord, rendons à César ce qui appartient à César. Les États-Unis et puis Macron étaient sur il faut peut-être une trêve pour commencer à négocier, faut peut-être ça, et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Des manifs, des mouvements y compris ces juifs new-yorkais qui occupent le Sénat en disant vous ferez pas de massacre en notre nom. Voilà. Donc il y a quelque chose qui peut être mieux mis en valeur pour montrer que sur le global, on n'est pas démunis, quoi. Voilà.
Patrick. Vas-y, Patrick.
Ouais, non, je suis d'accord avec ce que vient de dire Pierre, mais j'ai le sentiment de ne pas m'être exprimé assez clairement sur la question des dominations. J'ai tenté de le dire autrement. Je pense qu'on ne peut pas, y compris sur la question écologique, réduire tout strictement au lien, à l'affrontement capital-travail. Et je pense que nous avons à nous attaquer à toutes les dominations qui existent. J'en prends trois, quatre. De l'être humain sur l'ensemble du vivant. Je pense qu'elle n'est pas juste et qu'elle est à remettre en question. Il y a une domination de produire enfin consommer tout de suite, le consumérisme, on appelle ça comme on veut, qui effectivement est lié à la marchandisation et donc à des questions de l'argent roi, mais qui a aussi, y compris par rapport à ce que disait Olivier sur les représentations, donc l'idéologie, qui a aussi son propre fonctionnement et qui bon, je vais pas épiloguer là, mais qui du coup a des conséquences énormes sur le coût carbone de ce qu'on bouffe, là, du fait que toute une partie de la production aujourd'hui n'est pas liée à la réponse aux besoins, fût-ils sociaux. Elle est liée à des tas d'autres trucs. Ça, par exemple, moi, je ne vais pas reprendre ici à Amartya Sen, mais je pense qu'il a raison sur un certain nombre de points. Sur d'autres, je suis plus sceptique. Il a raison sur un certain nombre de points. C'est bien notre rapport au monde, notre rapport à l'autre et aux autres et à la matière, aux matières, il y a Amartya Sen, qui est à réinterroger. Et moi, quand on s'était croisé à Saint-Denis, 4 ans, je crois, j'avais trouvé extrêmement intéressant ce qui portait là-dessus. Voilà. Et moi, je n'ai pas envie que ce soit d'autres que nous qui le portions, parce que sinon, on va être effectivement dans une réponse punitive aux questions écologiques aujourd'hui. Voilà.
Juste je partage que dit Patrick, notamment y compris dans le rapport à la matière et au vivant. Mais en même temps, enfin, ce que j'ai oublié, je voulais compléter mon discours tout à l'heure en disant, par exemple, décarboner, ça veut dire donc ne plus utiliser de carbone, donc ni de pétrole, ni de gaz. Ça veut dire changer complètement la chimie. Ça veut dire passer d'une chimie qui utilise le carbone, et donc l'oxydation du pétrole et du gaz pour faire du plastique, par une chimie qui va plutôt faire de la réduction du carbone. Et donc, en fait, c'est inverse complètement les processus, c'est-à-dire transformer complètement tout le système industriel qu'on a construit auparavant. Donc d'abord, ça veut dire s'opposer aux groupes capitalistes et chimiques mondiaux, mais ça veut dire y compris avoir un forme de débat avec les salariés qui, dont aujourd'hui la connaissance est basée sur l'oxydation du pétrole et du carbone. Et ça, veut dire, c'est à faire avant la fin, le milieu de notre siècle, quoi. Et donc c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, toutes ces questions, si on veut, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si, moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est qu'on affiche pour l'instant des intentions, mais qui ne sont en aucun cas concrétisées dans les actes auxquels on se prépare aujourd'hui, quoi. On est en train de parler de, enfin, décarboner à 2050, c'est-à-dire, c'est moins d'une génération, c'est moins de 30 ans. Et je trouve qu'il y a, et je ne veux pas nier tout ce qui a été dit sur les rapports de domination, sur les rapports politiques, etc. Mais il y a aussi, à un moment donné, des enjeux, ben, je veux dire, à partager avec la population, parce qu'on a besoin d'énergie. Je veux dire, on a besoin que tout le monde s'investisse là-dedans. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Et je suis frappé à travers les. Ben, je partage ce que dit Pierre sur les communiqués de la Confédération paysanne, mais il y a toute une partie des agriculteurs qui ne sont pas à la Confédération paysanne et dont aujourd'hui. À la fois, enfin, qui disent qu'ils ne peuvent pas vivre de leur travail, et on est en train de leur dire, mais il va falloir complexifier votre travail, y avoir plus, y compris, de main-d'œuvre pour pouvoir, je veux dire, transformer les choses. Et comment on le dit? Et comment on le construit avec eux? Parce que si on les embarque là-dedans, mais on fera rien. Bah, je pense que c'est pareil avec les. Je pense que c'est pareil avec les gens qui travaillent dans les raffineries.
Non, tu as raison quand tu dis qu'il faut inverser. Et justement, toute la question, c'est que quand on dit ça, ce qui vient immédiatement derrière, c'est comment on fait pour que ce ne soit pas un nouveau totalitarisme, mais pour que ce soit un processus d'abord. Ce n'est pas magique, pouf, crac, non. Quel est ce processus et comment ce processus il est porté par l'ensemble de ceux qui y sont concernés. Et c'est aussi la façon dont il y a appropriation collective par l'ensemble de ceux qui sont concernés que ce processus lui-même peut évoluer. Et pourquoi il peut évoluer? Tout simplement parce qu'on s'attaque au cœur d'un certain nombre de dominations à chaque fois qu'on fait ça. Et donc, cette transformation, elle n'est pas blanc, de passer de blanc à noir ou de rouge à jaune. Elle est une construction humaine avec une intelligence collective. Voilà. Mais vous connaissez mon discours là-dessus, donc je m'arrête.
D'accord.
Oui, je voudrais embrayer sur cette question-là parce que bon, je suis aussi confronté très pratiquement hein, dans le domaine à la fois de l'urbanisme, de la construction, etc. Parce que par rapport à ce que disait Olivier, aujourd'hui, il y a un foisonnement assez extraordinaire autour justement du rapport à la matière et de la production de la matière, etc. Mais essentiellement, selon, et quand je dis essentiellement, c'est déjà pas mince, sur le procédé, en termes de procédé technoscientifique. Alors que l'industrie existante résiste par rapport à ça, ok, mais il y a un certain nombre assez incroyable de start-up sur des sujets très différents. On pense par exemple l'exemple de tout ce qu'on est en train de sortir de matériaux avec la base des champignons, des mycéliums, etc., qui est un bon. Mais quand on regarde, ce sont des startups et qui fonctionnent selon les mêmes modes. C'est-à-dire que grosso modo, demain, ces nouvelles industries, parce qu'elles sont nécessaires, je te rejoins entièrement, peuvent continuer à fonctionner au sein du système capitaliste, en produisant d'autres matériaux, etc., très vertueux, etc. Et d'une certaine façon, c'est peut-être aussi changé. Là aussi, dans l'affiliation de Marx, sur ce qu'on entend par production, c'est-à-dire qu'est-ce que la production est décidée par quelques-uns experts et financiers selon des procédés qui sont des procédés technoscientifiques et financiers, ou est-ce que la production est pensée comme un rapport social avec l'ensemble des intéressés, c'est-à-dire y compris des gens qui s'interrogent est-ce que telle chose est nécessaire ou pas? Parce qu'il y a bien des choses, entre guillemets, dites aujourd'hui inutiles qui sont extraordinairement nécessaires, et il y a bien des choses qui, soi-disant, paraissent utiles et dont on pourrait s'en passer. C'est une évidence. Une évidence. Prendre un exemple qui n'est pas non plus anecdotique, mais indépendamment d'ailleurs de son virage écologique ou pas, je pense que la question de l'industrie du luxe dans un pays comme la France, est un élément extrêmement important dans le changement des imaginaires par rapport à quel type de société, etc. Voilà. Et sur ce que ça suppose, y compris du ruissellement possible de cette industrie vers d'autres choses ou pas, et pas seulement ruissellement économique, mais y compris ruissellement en termes de procédés, de savoir-faire, etc., etc. Moi, ça me semble important. L'autre élément qui a été effleuré, c'est sur le fait que quand on dit il faut produire une autre façon, plus écologique, plus vertueux, voire même socialement émancipateur, etc. On dit il faut payer. Mais moi, je pense que oui, il faut payer. C'est-à-dire qu'il y a la qualité, et la qualité qui a à la fois des vertus écologiques et des vertus sociaux, a un coût. Mais qui doit payer, c'est une autre question. Est-ce que c'est individuellement qu'il faut payer un coût, ou est-ce que c'est socialement qu'on paye ce coût? Parce que c'est la même chose déjà avec la santé. Une santé de qualité, une éducation de qualité, une culture de qualité, etc., ça a un coût. Et ça rejoint le débat sur la gratuité. C'est-à-dire que les biens communs ont un coût, la réparation de la nature a un coût. Mais ça n'a pas de prix, d'une certaine façon. Ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. Et comment est répercuté ce coût? Ça, c'est une autre question. Comment socialement on prend en charge de façon mutualisée, égalitaire, etc., ce coût? C'est autre chose. Est-ce que chacun avec son portefeuille doit payer? Ou est-ce qu'il y a une mutualisation en termes d'impôts et autres, peu importe, qui permet de, à un moment donné, engranger des changements de civilisation avec des éléments qualitatifs, y compris sur la qualité alimentaire, sur la qualité du logement, sur la qualité des tas de choses. Ça, c'est voilà. Il y a très longtemps, Paul Gemetov disait un logement pour les pauvres, c'est pas un pauvre logement. Voilà. C'est pas juste un toit, etc. Donc cet élément-là, qui plus est rapporté aux vertus écologiques. Et qui est rapporté à une production de logement où les gens qui se lèvent à 5 h du matin ne sont pas payés bezette et ne prennent pas des risques pour leur vie, c'est une autre question.
Il faudrait que Nos échanges nous permettent là maintenant de commencer à définir la problématique qu'on veut
Parce
rédiger.
que là, effectivement, on ratisse large. Oui. Juste deux mots pour Macron. Sur cette question de l'économie et du qui va payer, est-ce qu'on envisage de se situer dans le même registre économique que maintenant, quoi? C'est peut-être plus du tout les mêmes relations qu'il faut inventer, et donc il y aura peut-être plus ce qui a payé qui se formulera de la même manière que maintenant, quoi.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà. Alors, non, moi, je voulais simplement rebondir sur. Donc là, évidemment, je suis pas tellement dans ce que tu souhaiterais amorcer, Sylvie. Juste, c'était une petite remarque que je voulais faire concernant cette menace dictatoriale qui se profile. On le voit avec toutes ces montées un peu partout dans le monde, au fur et à mesure que les problèmes s'aggravent. C'est évident qu'on va être confronté à quelque chose de cet ordre-là. Et il faut, alors, il y a ce problème d'autorité et de décision qui doit être prise. Donc, qui fait que les gens auront tendance à s'aligner et à rechercher quelqu'un, justement, avec un profil un peu de dictateur. Il y a ce risque-là, mais il y a aussi, d'un autre côté, avec j'allais dire l'internationalisation, c'est la mondialisation du problème, des réactions qui vont dépasser largement le cadre des frontières. Et qui vont, on le voit déjà d'ailleurs avec les agriculteurs, hein, et qui, mais pas seulement, bon, si on fait un peu le tour de tout ce qui s'est passé là, un peu depuis, on va dire, la dernière guerre, et on voit qu'il y a des mouvements internationaux qui s'amorcent de plus en plus. Moi, je pense que, effectivement, il va y avoir une tendance un peu, j'allais dire presque naturelle, c'est-à-dire il y a vraiment cette réflexe un peu ridicule, mais bon, qui marche comme ça, de se rapprocher des gens qui sont les plus autoritaires pour espérer trouver les solutions. Mais étant donné qu'ils n'en auront pas face aux problèmes écologiques, parce qu'ils sont loin d'en trouver, que ce soit ceux qui tiennent les rênes du capitalisme. Mais les plus autoritaires, de toute façon, se serviront aussi du capitalisme parce qu'ils sont incapables de faire autre chose, hein. Donc, ce sera de toute façon la même problématique, et ils vont faire forcément avec le temps. Alors, c'est là où il faudrait que ce soit dans un temps relativement court. Comment dire, la démonstration qu'ils sont incapables de régler ce problème. Et les populations vont forcément, à partir de ce moment-là, et un peu partout dans le monde, rentrer en réaction contre cet état de fait. Voilà un peu la lecture que je me fais un peu de l'avenir face à ce problème-là. Maintenant, concernant le choix du thème qu'on va aborder, j'avoue que j'ai pas de préférence particulière, hein. Tout est important pour moi là-dedans.
Ouais, on va pas tout traiter. Olivier? Enfin, oui, pardon, oui.
En fait, la question que je me posais était, enfin, en tout cas, si la question, enfin, est-ce que une des, en tout cas, telle que je le ressens, y compris de l'échange qu'on a, c'est que est-ce que une des questions qui est posée, c'est pas le fait de faire de la transition, hein, à quelque chose de collectif, une œuvre collective. Je m'explique, enfin, je vais prendre quelques images. Macron parlait tout à l'heure des startups qui travaillent sur. Et en même temps, moi, je suis, enfin, donc, startup qui est quand même le modèle, je dirais en tout cas qu'on met en avant de l'organisation de l'entreprise et du travail ou de libéral. Or, moi, je pense que la conception libérale du travail et de l'entreprise ne permet, de mon point de vue, pas faire face à la transition. C'est-à-dire qu'on transforme, pour aller vite, le travail en prestation, ce qui donne d'ailleurs le fait qu'on n'arrive plus à recruter des chauffeurs de bus, des conducteurs de train, et que, y compris dans mon entreprise, aujourd'hui, les RH ont, ça fait déjà plusieurs années que ça, mais sont complètement déconcertés par le fait que maintenant les gens démissionnent. C'est-à-dire qu'en gros, quand ça ne va pas, donc, y compris ils considèrent qu'ils ne peuvent pas agir sur leur travail, pour ceux qui en ont la possibilité, bah, ils s'en vont. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, et une autre réflexion, excusez-moi d'être un peu long, mais j'ai été frappé, enfin, je n'ai pas écouté la conférence de presse de Macron parce que je ne voulais pas m'énerver, mais ce que j'ai vu dans la presse, ce qui m'a fait bondir, enfin, sidéré, enfin, pas sidéré, parce que c'est quand il annonce. Qu'il veut individualiser, enfin, il veut mettre en place la rémunération au mérite pour les fonctionnaires et les enseignants. Et ça m'a rappelé ce que j'ai vécu dans ma boîte, où on est passé d'une rémunération à la qualification, pour aller vite, à l'individualisation des situations, et donc de chacun fait comme il peut pour se démerder, pour gagner, y compris ne pas perdre le moins de pouvoir d'achat, voire améliorer son pouvoir d'achat. Et ça a détruit les collectifs de travail. Et moi qui ai été à la fois. Je l'ai vécu en tant que tel, mais j'étais aussi manager et amené à mettre en place l'individualisation et les primes individuelles. Je peux vous dire qu'il n'y a pas plus destructeur dans des collectifs de travail que ces principes-là. Et quand on regarde aujourd'hui un des principes principaux, enfin, un des principes premiers qu'on nous explique, c'est, même si on dit c'est pas que ça, c'est comment chacun d'entre nous, on peut agir pour la transition et pour préserver l'environnement. Et c'est toujours renvoyé à l'individualisme, à l'individu. Et la question du collectif, alors que c'est un vrai projet collectif et de société d'organiser de ce changement de vie, ce changement de mode de vie, cette inversion, y compris d'une partie des choses, ça devrait, en tout cas, être un sujet, un projet collectif dans lequel les gens, effectivement, pour pouvoir s'impliquer, être mobilisés, il faut que tu puisses avoir le pouvoir de dire ton mot et d'agir dessus. Et donc, je me demande si la question. Un des angles du dossier, ça pourrait pas être celui-là, quoi. Si on recrée pas, est-ce que la démocratie et le débat, la discussion sur comment on veut vivre ensemble et comment on le met en œuvre n'est pas la question incontournable pour avancer sur cette transition avec tous les enjeux que ça représente et les urgences que ça représente?
Pierre, à toi. Mets ton micro.
Oui, je vais prolonger un peu ce que disait Olivier, mais j'y reviendrai d'ailleurs dans un point. Voilà, moi je retiens de notre discussion 3-4 points. Il y a qui nous inculque notre normalité? Je trouve qu'il y a un travail de déshabillage à faire pour montrer, justement, c'est pour ça qu'on parlait de domination, que nous ne sommes pas indépendants pour définir ce qui est normal, ce qu'il nous faut, etc. Ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. La deuxième question qui recouvre la démocratie, c'est de quoi sommes-nous capables? Alors, je pense à ce qui a été dit, la redéfinition des besoins, la prise en compte du collectif. Ce n'est pas seulement l'idée que c'est l'environnement, comme s'il y avait d'un côté l'environnement et de l'autre côté le social ou le démocratique, mais c'est prendre en compte le collectif. Voilà. Et qu'on aborde dans ce cadre-là du local au global. Et la troisième chose, c'est la démocratie, ce qui a été dit sur la démocratie. Et dans chacun de ces trois thèmes, je vois qu'on pourrait être un peu sur le déjà-là, c'est-à-dire où sont les points d'appui, qu'est-ce qui manque, hein, c'est pas la peine de se raconter des choses qui embellissent la situation, qui exagèrent la situation, mais qui montrent qu'on n'est pas dans un discours abstrait, lointain, qui a des points d'appui, voilà, et parfois même. les menées du capitalisme tiennent compte de ces points d'appui pour essayer de les étouffer, quoi.
Macron.
Oui, juste une remarque par rapport aux derniers éléments, dernières interventions d'Olivier et Pierre aussi, puisqu'ils ont mis l'accent là-dessus. Sur la question de la transition, et moi j'ai commencé à lire le bouquin de Fressoz, au-delà des désaccords que je peux avoir avec lui, qui sont aussi d'ailleurs des désaccords par rapport à une partie des gens du courant écologiste, qui pour des raisons diverses, s'obstinent à minorer l'apport de Marx, etc. Hein, par exemple, Jarige, Fressoz, etc. Alors que par ailleurs, ils sont dans des démarches extrêmement intéressantes. Mais par rapport à la question de la transition, je rejoins ce que tu as dit hein, sur le fond. Mais pour moi, sur la question de la transition, et qui plus est, la transition, une transition démocratique, maîtrisée démocratiquement, élaborée démocratiquement, etc., me semble qu'il y a une contradiction fondamentale, mais frontale, sur la question du temps et des temporalités. C'est-à-dire, ce qu'il dit Fressoz, grosso modo, c'est que plus le temps passe, moins on a le temps de la transition. Parce que la transition, nécessairement, c'est un processus. Nécessairement, c'est du temps. Qui plus est, la démocratie elle-même, c'est du temps. Et c'est justement, c'est ce temps aussi que le capitalisme nous compte, nous réduit, et qui nous permet pas des assemblées, de prise en compte. Moi, je le vois sur les projets urbains, etc., sur un certain nombre, où j'ai des exemples concrets dans lesquels je suis même engagé comme acteur, etc., où il y avait une volonté de refaire le projet de renouvellement urbain avec les habitants, de remettre en cause le projet précédent, etc. Ça a pris du temps et aujourd'hui les habitants ils disent, mais putain, on a perdu 2 ans. Pourquoi? Parce que le résultat de ce processus-là aujourd'hui tarde à recevoir des institutions les appuis financiers nécessaires pour être réalisé. Et ils sont pas loin de dire, mais finalement, on aurait mieux fait de ne pas remettre en cause le projet de départ parce qu'il y aurait déjà des choses réalisées. Donc cette question-là me semble une contradiction assez forte qui ramène aussi sur la question de ralentir, et c'est comme tout, c'est comme sur la question de la décroissance. Il y a des choses sur lesquelles il faut décroître, il y a d'autres puissances qu'il faut croître. Il y a des choses qu'il faut ralentir et il y a des choses qu'il faut accélérer. Or, on est par-dessus, cul par-dessus tête, on accélère là, il faudrait ralentir et on ralentit ce qu'il faudrait accélérer. Ça, c'est un élément qui me semble important parce que dans l'attente sociale et par rapport au changement des imaginaires, c'est un élément qui peut compter. Voilà.
Bon, il faut à partir de la discussion qu'on rédige une problématique. Donc Pierre, tu proposes 3 questions donc, qui nous inculquent notre normalité, qui définit nos besoins. C'est moi, je le mettrais plutôt comme ça, non? Enfin, je le comprends mieux comme ça. Et nous ne sommes pas indépendants et il y a une volonté de définir nos besoins à travers la recherche de nouveaux créneaux économiques, machin, etc. De quoi sommes-nous capables de prendre en compte le collectif, le local, au global? Ça, je comprends. Et la question de la démocratie, est-ce que ça vous paraît 3 axes qui pourraient faire notre...
Juste, oui, moi ça me va bien. Juste une petite remarque par rapport à ce qu'a dit Pierre, mais c'est pas pour pinailler, hein, mais et je pense que c'est pas ce qu'il avait en tête. Mais faisons attention que dans le fait que quand on dit qui définit notre normalité, c'est pas nous et ça vient d'ailleurs, c'est d'ailleurs ne nous dessaisisse pas de nouveau comme tu vois, un truc quasi complotiste, etc. Ils font leur truc, etc. Mais par contre, effectivement, c'est plutôt la question de la maîtrise, tu vois, la question de la maîtrise, parce que par exemple, une partie des gens qui partent des métropoles, etc., pour aller vers des petites villes et villages, l'essentiel, c'est pas simplement de retrouver la nature, c'est trouver une échelle où ils semblent pouvoir mieux maîtriser leur vie. Et ça, c'est une question essentielle. L'autre élément juste, et je pense que c'est pas le débat seulement sur l'écologie, mais ça nous aide là-dessus, c'est que très sincèrement, on a intérêt dans nos numéros, dans nos débats, etc., à y compris développer ce débat sur qu'est-ce que l'économie. Aujourd'hui, quand on y est économie, c'est nécessairement capitalisme. Or, il faut une alternative économique. Donc, c'est capitalisme plus ou moins régulé, capitalisme marché, plus un peu de planification ou pas, mais la question de qu'est-ce qu'une économie et qu'est-ce qui pourrait être une économie écologique et socialement émancipateur, c'est une question qui doit, voilà, moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'interrogations sur lesquelles il n'y a pas beaucoup d'écrits. Hein. Alors là, pour le coup, c'est. Mais moi, les trois points me vont très bien.
Ah, je partage ce que dit Macron sur y compris c'est quelle démocratie et comment y compris sinon sans supprimer le marché, si on veut plus de planification, comment on articule ça? Et sur la question de la démocratie, je partage aussi le point, je pense qu'il faut aussi aller plus loin et simplement. Enfin, j'entends et je remets pas en cause ce qu'a dit Pierre parce que je pense qu'il le portait. Mais souvent, quand on dit démocratie, c'est comment on décide jusqu'au niveau local et tout. Et moi, je pense qu'il y a plus que ça. C'est que s'il n'y a pas une réelle implication dans le faire par des collectifs, que ce soit dans les
Tout à
entreprises ou
fait.
ailleurs, par la population, ça ne marchera pas. Et pas simplement, je discute et je délègue. Mais je discute, c'est la condition pour l'implication d'ailleurs. Cette partie-là qui me paraît moins incontournable aujourd'hui. C'est pas simplement, enfin, je veux dire, je sais pas si c'est peut-être idéaliste, mais si la transition ne devient pas un projet commun partagé qui implique tout le monde, je pense qu'effectivement, on se heurtera aux difficultés qu'on connaît aujourd'hui.
Je partage complètement.
Tout à fait, tout à fait.
Moi aussi. Alors, je crois que c'est à moi.
Vas-y, vas-y, j'en vais.
Je vais juste lever la main, juste pour faire une petite parenthèse concernant justement cette question de l'économie. Évidemment, je partage complètement ce qu'a dit Macron là-dessus. Et je voulais simplement rajouter qu'il y a eu des économies planifiées qui ont montré comment dire, leur pleine réussite, hein. Je pense entre autres à la planification qu'il y a eu sous Roosevelt pendant la dernière guerre, qui a été un modèle de réussite. Hein. Les Américains ont très bien vécu, ceux qui se situaient sur le continent américain, très bien vécu cette période. Ils étaient très bien, comment dire, très bien
Merci.
payés. Et il ne manquait de rien. Enfin bref. Mais pour cette planification, évidemment, il a fallu comment dire, réglementer drastiquement les entreprises privées. Voilà.
Patrick.
Non, non, je suis d'accord avec ce qui était dit, et y compris avec les trois questions, juste une remarque du même acabit que ce qui a été fait pour la démocratie, quoi. Attention à ce que dans besoin, on ne se contraigne pas simplement dans les besoins matériels. Voilà. Ouais, qu'on prenne en compte aussi que la représentation qu'on a des choses, de notre rapport à l'autre, de notre rapport à la nature, de la société dans laquelle on est, de la perspective de vie qu'on a, de ce qu'on appelle la réussite, c'est aussi parfois un besoin. C'est pas seulement un besoin matériel, quoi. Voilà.
Pierre.
Ton micro, Pierre.
J'allais dans le même sens que ce que vient de dire Patrick, c'est-à-dire que la notion de besoin, c'est pour ça que je parlais de qu'est-ce que la richesse d'une société? Ben, la richesse d'une société, c'est l'état de la santé, c'est l'état des relations sociales, c'est le niveau culturel de la population. Tout ça fait partie de la richesse de la société, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a besoin de savoir qui définit les vocables qui sont utilisés quotidiennement. L'autre chose, c'est par rapport à ce que disait Jean Blaise sur les États-Unis pendant la guerre. Justement, c'est plus possible, ça. C'est plus possible parce qu'on est dans une période, mais durable et à mon sens irréversible, où le capitalisme ne tire plus suffisamment d'argent de la production. On voit, moi je cite souvent 64% des profits de Peugeot, c'est pas de l'automobile, c'est de la spéculation. Voilà. Et donc, c'est ce que Marx appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Je vais vite ici. Et l'autre chose, c'est que l'implication des humains dans le travail conduit à des exigences démocratiques qui sont redoutables pour le capital. Donc, on n'est plus du tout dans la situation des années 30. Voilà. Pas parce que le capitalisme est devenu méchant, mais parce que la moindre chose le met en cause, quoi. Voilà. C'est en cela, d'ailleurs, qu'on n'aura pas on n'a pas beaucoup de choix. Voilà. Je voulais juste insister là-dessus, quoi.
Qui veut rédiger un petit texte de problématique à partir de la discussion qu'on vient d'avoir pour qu'on puisse en discuter mercredi prochain au comité de rédaction?
J'arrête pour rendre un truc lundi, ça va être un peu compliqué pour moi, mais.
Bah quand tu te sens?
Non, j'ai un truc à rendre pour lundi, je suis charrette noire là, mais je veux bien réagir même à partir de lundi à un texte pour mercredi, mais jusqu'à lundi, j'ai un peu la tête dans le sac.
Je suis un peu dans la même situation que Macan, moi. J'ai le truc sur les prisons, j'ai. Je sais plus ce que j'ai. Ah, bah oui, les communistes unitaires, j'ai un texte à faire.
Ah ouais, j'ai le bouclage de cerise.
Voilà. Donc, j'ai un peu. Dans ces délais-là, j'ai un peu de mal. Bon. Bah, il reste que vous trois.
Oh, j'ai un autre truc à faire. Je veux bien participer, mais
Moi
au final,
aussi.
il faudrait que tu me renvoies l'audio parce que mes notes sont quand même assez succinctes. Donc,
Oui, bah c'est pour ça que j'ai fait un audio.
pour que je reforme. Bon, après, je veux bien essayer d'ici et vous envoyer un truc à la fin du week-end.
Ouais.
Ouais, oui, bah
Et
c'est
puis
bon.
on réagira.
C'est combien de signes? 1500 signes, c'est ça?
Oui, pour la problématique,
Ouais.
oui.
Maxi.
Ouais, on peut mettre 1500 signes, ouais.
Ouais.
On peut mettre des fois, il y a des problématiques qui sont un peu plus longues.
Oui, c'est ce que j'avais dit,
Bah,
Lisa.
en fait, t'as un petit peu d'introduction pour expliquer comment on arrive à deux ou trois questions.
Ouais.
Ok. Bon, envoie-moi l'audio.
Ok, ça marche. Je vais faire un nuage
Ouais, on
pour
met
que
là
ce
sur le nuage.
soit.
Ouais.
Ah ouais, c'est impeccable son nuage.
Ok,
Comme ça, on peut aller
ça
voir
marche.
chacun.